Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Je suis ravie d'ouvrir ce dossier aujourd'hui car la mission, en fait, c'est vraiment de décrypter l'âme véritable d'un lieu unique, le plateau de l'Aubrac.
Oui, bonjour. Un territoire majestueux, balayé par les vents, rude, mais tellement fascinant.
Exactement. Et pour y parvenir, on a sur la table une source unique. C'est une véritable mine d'or visuelle et historique. Il s'agit du numéro spécial 23 du bulletin du Cartoclub Aveyronnais, un document publié en septembre 2004.
C'est ça. Et ce qui est génial, c'est que ce bulletin choisit de raconter ce territoire non pas avec de longs traités académiques, mais à travers un prisme très singulier. Les cartes postales anciennes.
Ouais, c'est un choix éditorial super intelligent.
Ah, tout à fait. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est essentiel de saluer le travail titanesque qui a permis la création de cette source. On parle quand même d'un ouvrage d'une centaine de pages.
Une centaine, oui.
Et le tout a été orchestré avec une précision d'orfèvre par Gérard Nodan. C'est lui le rédacteur en chef, et c'est aussi lui qui a conçu cette maquette qui est franchement impressionnante.
Il faut aussi souligner l'apport inestimable de Guy Mazard et de tous les autres membres du comité de rédaction.
Oui, des passionnés qui se qualifient eux-mêmes de modestes bricoleurs bénévoles. Mais sans eux, toute cette mémoire visuelle risquait simplement de s'évaporer.
D'accord, décortiquons tout cela. Pour rester fidèle à l'esprit de ce bulletin qui est particulièrement dense, on va fixer une règle de jeu stricte pour cette session.
Une très bonne idée.
Notre attention se portera exclusivement sur les articles traitant directement de l'Aubrac. L'idée, c'est de rendre hommage à chaque auteur, de plonger dans leur découverte et de faire vivre ces petits rectangles de carton ancrés rien que par la description.
Je suis prêt.
Alors, on commence par la vue d'ensemble. Le chapitre s'intitule L'espace et l'histoire et il est rédigé conjointement par Gérard Nodin et le comité de rédaction. Le dictionnaire Larousse définit l'Aubrac comme un plateau basaltique entre 1000 et 1469 mètres d'altitude, mais dès les premières pages, on dépasse cette simple géographie.
Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'histoire humaine s'est construite en réaction directe à cette hostilité climatique. L'article de Gérard Nodin nous ramène loin en arrière, au XIIe siècle.
Avec un personnage clé, n'est-ce pas?
Exactement, Adalard, un noble flamand. Et ce n'était pas un bâtisseur au sens classique du terme. C'est un homme qui a littéralement failli mourir de froid et d'épuisement en traversant ces terres sauvages.
Une expérience de mort imminente, en fait.
Oui, et face aux éléments, ça l'a poussé à fonder un hôpital et un monastère en plein cœur de cette immensité. Le but était unique, secourir les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, pour éviter qu'ils ne subissent le même sort que lui.
Et c'est là que la cartophilie, la passion des cartes postales, prend tout son sens. Elle documente cette évolution vertigineuse de l'accueil sur le plateau.
L'article présente d'ailleurs une reproduction en couleurs magnifiques.
Ah oui, le sceau de l'abbaye hôpital d'Aubrac, SUCOL, datant de 1304. On y distingue un pèlerin qui s'appuie sur son bourdon, son bâton de marche. C'est très émouvant.
Et quand on tourne quelques pages, le saut dans le temps est saisissant. On tombe sur une carte de 1905.
Le fameux sanatorium.
Voilà. Un bâtiment en pierre, titanesque, massif, presque écrasant dans ce paysage vide.
Un édifice dont la vocation va muter de façon spectaculaire. Il a été construit initialement pour isoler et soigner, symbolisant une sorte de conquête médicale de l'air pur. Mais dès 1913, ça devient purement touristique.
Oui, c'est racheté pour devenir le Grand Hôtel ou le Royal Aubrac.
Et le bulletin dévoile une carte postale qui est franchement surréaliste. L'image montre la terrasse en pierre de l'hôtel, balayée par l'air vif du plateau. Et sur le sol dur, il y a une ribambelle de jeunes garçons.
Assis en tailleur, oui.
Et vêtus de maillots de bain rayés, la légende d'époque indique avec un sérieux imperturbable la cure solaire enfantine au Royal Hôtel.
Le contraste entre la réputation féroce de l'Aubrac et ses enfants à moitié nus prenant le soleil, c'est une vraie claque visuelle. Ça illustre une domestication temporaire de la montagne.
Temporaire, oui. Parce que la carte suivante, rappelée par le comité, nous ramène brutalement à la réalité mortelle du lieu. La cloche des perdus.
Une cloche logée dans la tour de l'ancienne abbaye. Au-delà de l'aspect pittoresque, elle avait une fonction de survie absolue. Quand la tourmente s'abattait, cette redoutable tempête de neige locale, elle effaçait tout repère visuel.
Donc cette cloche sonnait de jour comme de nuit.
C'est ça. C'était le seul fil d'Ariane sonore pour guider les voyageurs égarés. Ne pas l'entendre, ça signifiait geler sur place.
Cette rudesse climatique nous amène naturellement au deuxième grand axe abordé par Gérard Nodan et le comité, la relation symbiotique entre la race bovine locale et les rigueurs de l'hiver. Parce que l'Aubrac, c'est pas qu'un paysage.
C'est une vache emblématique.
Absolument. Les descriptions dans le bulletin insistent sur son esthétique. On dirait qu'elle est dessinée pour résister. Une robe fauve, couleur froment, et surtout ce détail inoubliable des yeux qui semble souligné de noir.
Comme si elle était maquillée, ça fait ressortir son regard de façon incroyable. C'est une rusticité qui a fait la fierté de la région, bien au-delà de ses frontières.
L'élevage était le cœur de l'économie, c'est clair. D'ailleurs, il y a une carte postale expédiée avant 1903, éditée par le ruthénois Carrère, qui illustre ce prestige de façon magistrale.
Ah oui, le taureau.
Monumental. Il occupe presque toute l'image. Il a remporté le premier prix au concours agricole de Paris et y pose fièrement. C'est vraiment le triomphe de l'élevage aveyronnais.
Mais si ce taureau incarne l'abondance de l'été, le bulletin rappelle très vite ce qui se passe quand l'hiver prend le pouvoir.
L'hiver, sur le plateau, ça ne rigole pas.
C'est pas juste une baisse des températures. Les archives révèlent une période d'enfermement terrifiante. L'isolement des fermes et des villages devenait total. Et le comité rappelle que l'angoisse n'était pas que météorologique.
C'était une angoisse animale. Les loups?
Oui, les loups rôdaient autour des habitations isolées. C'était une menace constante qui pesait lourdement sur la psychologie des habitants.
Et la neige, mon Dieu, la neige! Les images choisies sont à couper le souffle. Il y a une prise de vue d'avril 1951. C'est réalisé par les éditions MSI MOS. On y voit la rue principale du village d'Aubrac. Enfin, il n'y a plus de rue, en fait.
L'espace est comblé par des murs de neige.
Des murs de 2 à 3 mètres de haut. Les habitants ont dû creuser des tranchées à la pelle pour faire de minces couloirs blancs et réussir à sortir de chez eux.
Une autre carte enfonce le clou. Elle est signée par le photographe local, J.B. Valéry. On y voit le seul ravitaillement possible, un frêle traîneau tiré par un cheval, luttant contre l'immensité blanche.
C'est ici que cela devient vraiment intéressant, je trouve. Ces conditions de vie extrêmes rendent le contraste de la section suivante encore plus frappant. Le comité, avec l'apport très fouillé de Bernard Livenet, s'est penché sur la vie quotidienne. Et ils opposent le monde clos des burons à l'arrivée d'une nouvelle faune, les Gaspé-Jaillères.
Les touristes, c'est une étude sociologique passionnante lue uniquement à travers ces clichés.
D'un côté de la lentille, on a le buron. Ces petits bâtiments trapus aux toits de lauzes lourdes perdus sur les estives. Bernard Livenet partage une carte moderne devenue iconique, photographiée en 1989. Le buron de Canuck.
Une image très forte. On y voit l'intérieur sombre du bureau.
Avec le cantalaise Jean Boudou en plein effort. On ressent presque l'humidité de la pièce, l'odeur puissante du lait caillé, la fatigue de cet homme courbé sur ses outils traditionnels pour presser la tome. C'est le travail brut.
Et il faut comprendre que cet homme vit coupé de sa famille pendant des mois, avec le troupeau pour seul horizon. Mais à quelques kilomètres de là, la cartophilie nous montre une réalité radicalement opposée.
Presque absurde même. L'éditeur L. Anquetil a capturé ça avec sa série intitulée « Cure d'air et de petit lait ». En regardant ces images, on sourit inévitablement.
Les fameux Gaspé-Jaillères, les touristes parisiens.
Le cadre est le même, l'herbe rase, le vent, mais les sujets portent des costumes trois pièces ajustés, des gilets, des cravates et des chapeaux canotiers en paille.
En pleine montagne.
Exactement. Certains sont affalés dans l'herbe piquante, plongés dans leur journal comme s'ils étaient à la terrasse d'un café parisien. Pire, une vue les montre en train d'arracher des racines de gentiale au milieu du champ, toujours engoncées dans leurs vêtements de ville luxueux.
Cette série d'Anquetil est un document historique majeur sur la naissance du tourisme de santé. L'Aubrac est réinventé en clinique à ciel ouvert par la bourgeoisie de la Belle Époque. On y consomme l'air vif pour soigner ses poumons, sans quitter son corset social.
C'est la montagne vue comme un décor de théâtre en ignorant totalement la rudesse du travail qui s'y déroule.
Tout à fait. Et pour dissiper ce vernis touristique, le numéro 23 propose une séquence brillante intitulée « Regards croisés sur l'Aubrac ».
L'approche est super efficace. Confier l'analyse d'une carte postale précise à une personne qui connaît charnellement la région. Deux articles illustrent cette démarche, signés Paul Fournier et Claude Petit.
L'image cesse d'être une simple illustration. Elle devient un texte crypté que seul un initié peut lire.
L'analyse de Paul Fournier est une vraie révélation. En tant qu'ancien buronnier à Borne, sur la commune de Prats-Gobrac, il décortique une carte des éditions Boss montrant une scène de traite en plein air.
Pour nous, c'est juste une scène bucolique. Un homme, une vache, un pré.
Mais lui repère un détail technique invisible pour le profane. Il note que le jeune veau est attaché par une corde extrêmement courte à la patte avant gauche de sa mère.
Pourquoi ?
C'est une technique précise. Le veau stimule la montée de lait tout en étant immobilisé. Ça évite qu'il ne bouscule le trayeur et ne renverse le seau de lait. Au passage, son regard du puriste lui fait remarquer que la vache sur la photo n'a pas les fameux yeux soulignés de noir typiques de la race pure.
Mais s'il concède qu'elle reste une très belle bête, n'est-ce pas ?
Avec beaucoup de tendresse, oui.
Si on élargit la perspective, l'historien Claude Petit va encore plus loin. Natif de Relverlac, il choisit une carte montrant l'équipe complète d'un buron posant au milieu des pâturages.
Sous sa plume, ce petit carton de 9 cm sur 14 devient un vrai traité de sociologie rurale. Il lit l'image de gauche à droite.
Comme un organigramme d'entreprise sculpté dans la pierre. L'emplacement de chaque homme reflète un ordre social inébranlable.
À l'extrême gauche, on a le plus jeune, souvent un adolescent. C'est le roulé ou bedélier. Relégué aux corvées comme la coupe du bois.
Au centre de la composition, c'est le pastre, l'homme d'expérience responsable de la garde du troupeau.
Et sur la droite, portant fièrement son tablier distinctif, trône le cantalès, le maître absolu du buron, le fromager, celui qui transforme le lait en or blanc.
Cette photo a fossilisé une hiérarchie pastorale complexe qui est totalement disparue aujourd'hui.
Et cette imbrication entre l'homme et son environnement prend une tournure encore plus physique dans l'article suivant. Jean-Pierre-Henri Azéma, un spécialiste reconnu, propose une plongée spécifique sur les moulins de l'Aubrac.
Son étude des cartes postales démontre une soumission totale de l'ingénierie rurale à la géologie du terrain.
C'est ça. Les cartographies de ces moulins à eau n'est pas dictée par la proximité des villages. Elle est dictée par la roche. De Cantoin au nord jusqu'à Aurel-Verlac au sud, la présence des moulins est strictement conditionnée par le basalte.
La mécanique est implacable. Le basalte est imperméable. L'eau court à sa surface avec assez de force pour actionner les meules.
Mais dès qu'on arrive sur des sols granitiques ou schisteux, l'eau s'infiltre et disparaît. Plus de force motrice. C'est le basalte qui décide si on mangera du pain ou non sur l'Aubrac. L'adaptation ultime de la technologie humaine aux caprices du sol.
Cette nécessité de faire corps avec la rudesse du territoire trouve une résonance très poétique dans le dernier grand chapitre, un article de Jean-Michel Poujol consacré à un homme au regard aiguisé.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Ce dernier article dresse le portrait de Jean-Baptiste Valéry. Né en 1864, mort en 1943, ce n'était pas un photographe parisien en visite.
Non, c'était le curé de la paroisse de Bonnefonds-d'Aubrac.
Mais il avait un autre culte en parallèle. Il troquait souvent sa soutane pour transporter un matériel photographique très lourd à travers les tourbières fonctionnant avec des plaques de verre fragiles.
Son importance est capitale. Contrairement aux éditeurs nationaux qui cherchaient le sensationnel, Valéry photographie de l'intérieur. Il connaît le nom de chaque buronnier.
Il comprend la fatigue de ses paroissiens. Et cette intimité transpire dans ses cartes. Jean-Michel Poujol cite des œuvres marquantes comme « La Roche Diable » ou « L'ancien grenier des moines d'Aubrac ».
Et il y a cette carte très poétique.
Oui, celle titrée de sa propre main « L'église, j'aime ma bruyère et mon clocher à jour ». L'image montre un attelage de bœufs avec la petite église de Bonnefonds en fond. C'est une déclaration d'amour à son propre territoire.
En figeant ces scènes, ce prêtre-éditeur a agi comme un archiviste visionnaire. Il a capturé l'âme d'un monde agropastoral juste avant que l'exode rural n'en altère la structure.
Quand on referme les pages de ce numéro spécial, la sensation est vertigineuse. Le travail du Carto Club Aveyronnais dépasse de loin la nostalgie. C'est une résurrection de la mémoire.
Cela soulève une question importante pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Pourquoi prêter autant d'attention à ces bouts de carton centenaires ?
Bonne question.
Parce qu'ils matérialisent un rapport au temps qui nous échappe. Ces cartes racontent l'attente, attendre la bonne lumière, que l'appareil soit stable, que le sujet pose, et le temps du voyage postal.
C'est un antidote salvateur à l'immédiateté écrasante et à la surcharge d'informations de notre quotidien. Ces images nous obligent à ralentir, à observer une corde nouée à la patte d'un veau ou la hiérarchie silencieuse de trois fromagers.
Absolument.
Et ce rapport au temps inspire une dernière réflexion, laissée ouverte pour ceux qui nous écoutent. Dans notre monde saturé par le numérique, des millions de photos sont prises chaque jour, partagées en une seconde, puis oubliées dans les abysses du stockage en ligne.
C'est très vrai.
Face à cette surproduction éphémère, quelle trace visuelle de nos métiers ou de nos hiérarchies survivra dans un siècle Brismeyer ? Existera-t-il en 2126 des associations fouillant nos archives virtuelles avec la même ferveur que le Cartoclub analysant les photos d'un curé avoriné ?
Le mystère reste entier.
Merci d'avoir partagé cette exploration riche en découvertes avec nous. À très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur.